Qu'est-ce que c'est que la justice? Alors là, vous avez le palais de justice de Figeac. C'est là où l'on rend la justice. Et puis là, vous voyez, il y a un petit logo qu'on connaît bien pour la justice. C'est la balance. Je vais vous afficher la balance maintenant. Sorti de l'écran. Voilà. Le logo de la balance. La balance, c'est ce qui pèse le pour et le contre. Paul parle, lui, non pas de la justice des hommes, mais de la justice de Dieu, mais il y a quand même, l'un va permet quand même de comprendre l'autre. Quand Dieu nous jugera, où est-ce qu'on sera? D'un côté de la balance, c'est nous qui serons évalués, qui serons jugés, pesés, comptés, divisés. Vous savez, ces paroles qu'avait prononcées Dieu en jugement sur le roi Nebuchadnezzar il y a bien longtemps. On sera pesés. Et qu'est-ce qu'on va mettre de l'autre côté ici, d'après vous? Le Seigneur a dit, on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi. En Matthieu chapitre 7, verset 2. Donc, ce qui sera de l'autre côté de la balance, la façon dont nous, on a mesuré les autres, on sera mesuré à la façon dont on a mesuré. Et c'est ça qui sera de l'autre côté. Et c'est pour ça que nous sommes des personnes qui sommes responsables. Ô combien responsables, profondément responsables en ce qui concerne notre jugement à venir. Dieu ne va pas nous juger à partir de choses qu'on ne savait pas, mais il va nous juger à partir de ce qu'on savait et à partir de ce que nous-mêmes on a appliqué aux autres. Et donc la question, qu'est-ce que la justice? C'est surtout qu'est-ce qu'est la justice par rapport à la justice de Dieu et comment satisfaire cette justice? C'est ce que Paul a à l'esprit, c'est bien la justice de Dieu et c'est bien comment satisfaire à cette justice. Alors, chapitre 9, verset 31, il commence à présenter, ou du moins j'ai mis en ordre ce qui présentait la mauvaise façon de chercher la justice. Et il commence à expliquer que la loi ne conduit pas à la justice. Chapitre 9, verset 31. Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Il n'y a pas de loi qui conduise à la justice. La loi indique ce qui est injuste, mais elle n'indique pas ce qui est juste, mais elle vous dira ce qui est injuste. La loi, en effet, sanctionne le péché. Juste quelques pages avant, si vous tournez vos Bibles, l'apôtre a expliqué ça. Chapitre 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras pas ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par la convoitise, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. car le péché saisit sa l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-elle été pour moi une occasion de mort, loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devienne condamnable au plus haut point. Et on expérimente ça. On sait très bien dès qu'il y a quelque chose qui est interdit quelque part, eh bien, on a envie de voir, de le faire. On a envie de le tester. Si c'est interdit, c'est qu'il doit y avoir quelque chose derrière qui doit être intéressant et qu'on m'empêche d'atteindre. La loi... sanctionne le péché. Là où il n'y a pas de péché, il n'y a pas besoin de loi. Nos gouvernements font beaucoup de lois, mais ils font des lois parce qu'il y a des problèmes. Ils votent des lois pour faire des sanctions, pour que la société aille dans le bon sens. Et la loi établit parfaitement notre responsabilité. Un autre point qui ne conduit pas à la justice de Dieu. Les œuvres ne conduisent pas à la justice de Dieu. Juste au verset d'après, en Romains chapitre 9. Israël a cherché la justice de Dieu, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Et se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, celui qui est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, on va y revenir. Devant Dieu, c'est les hommes, les religions en général, elles ont cette idée que devant Dieu, ce qui va compter, c'est la balance entre ce qu'ils ont fait de bien et ce qu'ils ont fait de mal. Mais c'est une idée, je ne sais pas d'où elle vient, j'ai réfléchi à ça, mais dans la vie de tous les jours, lorsqu'on va au tribunal, il ne s'agit pas de savoir si ce qu'on a fait est bien ou si ce qu'on a fait est mal. J'ai fait un accident il n'y a pas longtemps. Je vais essayer de vous montrer ma belle voiture, ce qu'elle est devenue. Bon, quand on voit ça, on sait qui c'est qui était responsable. La voiture plaide contre moi quand on la voit. Elle est toute cabossée. Bon, elle roule, mais elle ne peut plus rouler. La malheureuse personne que j'ai heurtée, je n'avais pas respecté la distance de sécurité, route glissante, et comme on dit, badaboum. Est-ce que la personne que j'ai heurtée, je peux plaider que j'avais des pneus en bon état, je vous garantis. Et puis j'avais fait le contrôle technique. Et puis j'avais une bonne raison d'être là parce que j'avais été faire les courses de ma maman qui pouvait pas se déplacer. Tout ça, ça ne lui servira à rien. Lui, il a sa voiture cabossée, c'est pas ce qui va lui réparer sa voiture. Les bonnes actions ne peuvent jamais compenser le mal qu'on a fait à autrui, c'est impossible. Et pourtant, on pense que devant Dieu, ça va fonctionner ainsi. Ça ne peut pas fonctionner ainsi. Ça ne peut jamais fonctionner ainsi. Cette idée-là, qui est une idée religieuse, je ne sais pas d'où elle vient. Je vous laisse imaginer d'où ça peut venir. Mais en tout cas, ça ne vient pas du bon sens. Et ça ne vient pas de ce que la société civile nous apprend. Donc, les bonnes œuvres ne conduisent pas à la justice de Dieu. La bonne volonté non plus ne suffit pas. Verset 10, frères et sœurs, le vœu de mon cœur, ma prière pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ce n'est pas la bonne volonté qui compte, on le sait. C'est, le résultat qui compte. On a des fois des gouvernements et ils prennent toutes ces bonnes décisions. Vous allez nous juger à nos résultats. Et puis, voilà. Non, c'est vrai que la bonne volonté, c'est sûr que tout le monde est là pour faire son travail le mieux possible. Mais au final, c'est le résultat qui compte. La bonne volonté, pareillement, ne suffit pas. pour arriver à la justice de Dieu. Non, il faut autre chose. Un petit peu plus loin, verset 3, la propre justice ne sert à rien. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu, c'est des Israélites. Ils cherchent à établir leur propre justice. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. La façon de faciliter, la solution de facilité par rapport à la justice, ben, c'est d'établir ses propres règles. Au moins, ça passe, c'est plus facile. Et c'est ce que font les hommes. Ils définissent leurs propres règles pour déclarer s'ils sont justes ou pas. Mais une telle façon de procéder n'est rien d'autre que s'opposer directement à ce que Dieu établit comme étant juste et la façon dont il peut déclarer telle personne est juste. Alors, vous n'êtes peut-être pas convaincu de cela. Je vais vous parler maintenant de ce fameux rocher qui fait trébucher, qui occupe la pensée de l'apôtre Paul. Alors, c'est tiré de Ésaïe, chapitre 8, verset 14. Mais c'est la deuxième partie que je vais m'intéresser surtout. Celui qui croit en lui ne sera pas confus. Ésaïe, chapitre 28, on va lire du verset 15 au verset 20. Qu'est-ce que la parole de Dieu disait là par la bouche du prophète Ésaïe? Ésaïe, chapitre 28. Du verset 15. Vous dites, dit le prophète et s'adresse à son peuple, c'est Dieu qui parle, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau des bordes passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle, de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Et votre alliance avec la mort sera détruite, votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordera, passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque jour il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour, la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Il y a bien sûr tout un contexte par rapport à ces paroles, mais il est question ici d'une mise en garde contre un pacte, signer un pacte avec le séjour des morts. Alors je ne sais pas ce que cela pouvait ressembler à l'époque d'Ésaïe, mais nous on est quand même fort pour prendre des décisions, on le sait, hein, décider tel fœtus doit vivre, où tel fœtus doit mourir, où on est fort également pour spéculer sur ce qui se passe après la mort. Et il y a toutes sortes d'hypothèses qui sont exprimées, généralement lors des enterrements. Je sais qu'il nous voit, tu seras toujours présent, des phrases qui sont prononcées dans la douleur et qui, voilà, ne repose pas sur grand-chose. On est fort aussi pour prétendre choisir l'heure de sa propre mort. C'est les projets qu'on a actuellement. Mais pour la plupart d'entre nous, nous vivons comme si la mort n'existait pas. Comme si la mort n'existait pas. Cet homme sage qui s'appelait l'Ecclésiaste a dit « Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin. car telle est la fin de tout homme. Et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. La Bible l'appelle le séjour de mort, le roi des terreurs. La mort n'est jamais rassasiée. Elle est comme un feu. Autant vous mettez du bois, si vous avez fait du feu chez vous une fois, autant vous mettez du bois, autant ça brûle et ça s'arrêtera jamais. Et autant vous mettrez du bois, autant ça brûlera et le séjour des morts est immense. Et il accueille, et autant il y a des personnes qui décèdent, autant il les accueille et il n'est jamais rassasié, ce n'est jamais terminé. Le prophète aussi met un point d'attention sur le mensonge. Ne dire pas la vérité, c'est indéboulonnable chez les hommes. Hein. J'écoutais une émission l'autre jour à la télévision. C'était par rapport au conflit en Ukraine, un autre conflit. Et une journaliste qui était là, parce qu'il parlait des mensonges que disait le côté russe. Et puis aussi, il y avait des mensonges du côté ukrainien, mais elle s'exprimait. Mais tout le monde ment. Tout le monde ment. Tous mentent. Tout le monde ment. Elle était catégorique là-dessus. Elle ne voyait pas un racheter l'autre à ce niveau-là. Et le mensonge est si facile et si pratique. Depuis qu'on est petit enfant jusqu'à ce qu'on devienne grand, le mensonge permet de se dissimuler, de se cacher, de dissimuler ce qu'on ne veut pas que les autres sachent. J'ai une belle citation de Winston Churchill. Ce qui a la plus de valeur dans ce monde, c'est la vérité. C'est d'ailleurs si précieux qu'elle est souvent cachée ou défendue derrière une barricade de mensonges. Et il parlait à l'époque des relations entre l'Est et l'Ouest, mais c'est hélas valable pour nous également. La vérité, c'est que l'on pêche et que l'on pense que le mensonge va le cacher. Et ainsi, on est en double faute. Et le prophète annonce la venue d'un fléau qui balayera les fausses sécurités. On a eu des inondations dernièrement, et beaucoup témoignaient de cette eau qui montait, du bruit, du torrent qui coulait, et de voir l'eau qui montait, qui rentrait dans la maison pour tout submerger. Et ils se sentaient complètement impuissants, démunis, ils ne pouvaient rien faire. Mais là, il s'agit de cette eau qui repartirait, et puis qui reviendrait à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, à n'importe quel moment, sans arrêt, tous les jours, ce fléau qui remonte. Et c'est dans ce contexte-là que le prophète parle d'un rocher. Un rocher sur lequel on peut s'appuyer et qui sera inébranlable. Une pierre solide sur laquelle on peut se tenir, Jésus-Christ. Plus loin, le prophète Esaïe écrira en verset 64 « Nous sommes tous comme des impurs, toute notre justice est comme un vêtement souillé, nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » Donc il est important de trouver la façon dont il faut trouver la justice qui vient de Dieu. Et Dieu, il dit, il faut vous soumettre à cette justice-là. En dehors de ça, il n'y a pas de salut. Verset 10 de Romains chapitre 10, verset 5 à 8. Christ est la fin de la loi pour la, verset 4, Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est cette parole de foi que nous prêchons. Pratiquer la loi pour espérer trouver la vie, ça a été une faillite pour le peuple d'Israël. Lévitique chapitre 18, 5, c'est inscrit cette phrase et l'on sait que Israël n'est jamais arrivé à garder la loi. En Deutéronome, toujours dans le livre de la loi, chapitre 30, verset 11 à 14, Moïse fait pourtant la mention que cette loi, pratiquée, tous ses commandements, était si proche du peuple, proche du cœur, proche de la bouche. Mais ils ne sont pas arrivés à la saisir. Et donc, cela ouvrait déjà la voie à la justice qui allait être apportée par Jésus-Christ. Toutes les exigences de la loi qui tiennent en deux commandements: aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces, et aimer son prochain comme soi-même. Tous ces commandements-là, Jésus-Christ allait les accomplir. Et il suffirait donc de placer sa confiance dans l'obéissance de Jésus-Christ et dans l'expiation qu'il avait fait à la croix, dont on s'est souvenu tout à l'heure lorsqu'on a pris le repas du Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Christ l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Croire que Jésus-Christ est ressuscité, c'est aussi croire qu'il est mort, bien sûr, et c'est aussi croire qu'il est mort. Pour quelle raison? Pour porter nos péchés à la croix. Et s'il est vivant, c'est que Dieu a agréé ce sacrifice d'expiation. Donc, plus besoin d'accomplir la loi. Jésus l'a accompli pour tous ceux qui croient en lui. Chaque fois que la loi nous condamne, nous pouvons plaider le sang de Jésus-Christ avec repentance, nous approcher de la croix et là trouver le moyen d'être pardonné, de trouver la justice de Dieu. Alors, si je reprends notre balance tout à l'heure, elle était là. Si nous sommes là grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, de l'autre côté, il n'y a plus rien. Toutes nos fautes, toutes nos transgressions, Jésus-Christ les a pris sur lui à la croix de Golgotha. Et donc, on peut avoir l'assurance que la balance va peser, va basculer du bon côté. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Dieu n'a plus rien à mettre de l'autre côté de la balance. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Ceux qui croient en lui ne regretteront rien. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ce verset. Aujourd'hui, c'est pas facile de dire qu'on est chrétien. Ça a des incidences, hein. On nous reprochera tout de suite d'être, que le christianisme est responsable des croisades du passé, ou qu'on est des illuminés naïfs de croire que la Bible serait la parole de Dieu. Non, on nous dit c'est la parole des hommes qui a été trafiquée au cours des siècles. Ou bien on nous dira qu'on est des gens dangereux qui cherchent à répandre leur doctrine pour faire de l'argent, pour s'enrichir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que l'on perd lorsqu'on se convertit à Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses que l'on perd. Mais, nous dit la parole de Dieu, il y a une certitude qu'on ne regrettera jamais le choix de Jésus-Christ. Jamais on ne regrettera cela. Bien au contraire, celui qui croit à lui ne sera jamais dans la confusion. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Versets 12 et 13. Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, puisque tous ont le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et effectivement, il n'y a qu'un seul Dieu, qui est le Dieu de toute la création, un seul Dieu. Dieu est le Dieu de tous les hommes, de ceux qui connaissent les 10 commandements, comme de ceux qui ne les connaissent pas. Il n'y a qu'un seul Dieu. Quiconque, chacun peut mettre son nom, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà la justice de Dieu à laquelle il faut se soumettre. Invoquer, c'est-à-dire dire le nom, ou bien en appeler à, ou bien prier, invoquer, c'est tout ça. Invoquer quoi? Dire le nom de qui? Le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur. Et le mot Seigneur, dans la pensée de l'époque, c'était Dieu lui-même. C'était la façon dont on désignait Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, qu'il soit juif, qu'il soit pas juif, d'où qu'il vienne, d'où qu'il soit, quel que soit son âge, son origine, son état de santé, ses papiers d'identité, qu'il en ait, qu'il n'en ait pas. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il sera donc juste devant Dieu. La balance bascule toujours du côté de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est dans la balance penchera toujours du bon côté. Alors, quelle suite a donné à ce texte? Bien sûr, la prédication qui vient à l'esprit, mais il faut croire en Jésus, il faut que je croie en Jésus. Et si on est croyant, exprimer notre reconnaissance. Je vous propose maintenant que l'on chante un chant ensemble. Je suis content que Patrick ne l'ait pas choisi pour le repas du Seigneur, parce qu'il aurait pu convenir aussi, c'est le 218. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur sera l'aidé. Cet avocat s'appelle Amour. Il intercède pour moi toujours. Voyez l'agneau ressuscité. Il est le roi plein de bonté, il ne changera jamais ma justice, mon bien et ma paix. Entendons le chant ensemble et ensuite on prie.
Thank you.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On peut avoir un moment de prière maintenant.